m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
avec courtoisie.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir 17h30-19h30, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le quotidien de la France droite. C'est parti pour 2 heures avec ce soir mes 3 voix subtiles et à droite, vous connaissez la formule, pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays. Jean-François Coulon-Desarts, journaliste et écrivain qu'on retrouve puisqu'il nous avait manqué, comme dit Valérie Pécresse.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Jean-François. Damien Chalamel, qu'on retrouve aussi après de longues vacances. Pour Damien Chalamel, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle. Bonsoir Damien.
Bonsoir chers auditeurs.
Vous avez profité de vos congés.
Il est bronzé.
Voilà, les congés payés.
Il revient bronzé, reposé, c'est plus le même homme. Vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. On les lira à l'antenne dans toute la mesure du possible. Vous êtes les bienvenus. Au programme ce soir, édito avant les municipales, un sondage sonne le grand retour de la France conservatrice, figurez-vous, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Première partie, le pétrole prend feu, la France face à cet incendie planétaire. Quentin au cœur d'une bataille médiatique, désormais, ça sera notre deuxième partie, et nous en parlerons avec le journaliste de Boulevard Voltaire qui a suivi cette affaire, Jean Bexon. Nous aurons notre traditionnel clin d'œil culture dans le dernier quart d'heure. Et je vous parlerai cette fois, j'espère, parce que j'ai pas eu le temps la semaine dernière, du livre d'Alexandre Devecchio aux éditions Fayard, Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue. Mais auparavant, notre traditionnel tour d'actualité. Qu'est-ce qui vous a frappé cette semaine? Qu'est-ce que vous avez retenu? Je me tourne vers vous, Damien Chalamel, parce que vous avez eu le temps de regarder l'actualité, les doigts de pierre d'éventail.
Non, c'est pas. Oui, c'est ça, bien sûr. Alors... Pendant 15 jours, bien sûr.
Pendant 15 jours.
Non, alors moi, c'est une actualité à connotation juridique. C'est un avis de la Commission de liberté civile au Parlement européen du 9 mars. Alors, ce n'est pas un avis, d'ailleurs, en réalité. C'est un accord majoritaire des parlementaires européens en vue de l'adoption d'un règlement concernant l'expulsion des étrangers en situation irrégulière.
Ça a l'air techno, votre affaire. Étrangers en situation irrégulière.
Voilà, ouais. C'est une mesure potentiellement... Je dis potentiellement parce que c'est un projet de règlement que les députés, dont les députés ont adopté une première version, et là, ils vont adopter la version définitive, je crois que c'était aujourd'hui, et ensuite, il sera soumis au Conseil des ministres. La particularité du règlement, c'est que, contrairement aux directives... qu'il faut transposer dans le droit national, les directives, elles sont directement applicables. Et ce règlement, il est beaucoup plus coercitif. Je vous donne un exemple.
Les règlements sont directement applicables.
Les règlements européens sont directement applicables dans les ordres juridiques des 20...
par les parlements.
Exactement, sans passer par les parlements nationaux. Ouais. Il prévoit, je vous donne à titre d'exemple, que la personne qui est expulsée, qui refuse de quitter le territoire volontairement, peut être retenue en centre de rétention pendant 24 mois. En France, à titre, titre d'exemple, c'est 90 jours.
Ah oui, donc, ah oui, on passe de 90 jours à 24 mois.
Voilà, et ainsi de suite. Alors, il autorise également...
Et ce sera le cas, ce sera appliqué tel que en France.
Tel que, et dans tous les pays. L'instauration également de plateformes de retour en dehors de l'Union européenne. Ce qui avait commencé à faire le Royaume-Uni le Rwanda et l'Italie avec l'Albanie. Voilà. Alors, ce qui est également intéressant, ça c'est...
Ça va changer la donne, d'après vous ?
Ça va. Alors, pour cela, c'est-à-dire les migrations illégales, en particulier de candidats au droit d'asile dont les demandes sont déboutées. Pour cela, effectivement, pour l'immigration légale, non. Mais pour l'illégal, oui, ça peut changer la donne. Et ce qui est doublement intéressant, c'est que, bien évidemment, qui est à l'origine de ce projet de règlement ? Ce sont les partis de droite, mais Tous confondus,
absolument.
C'est-à-dire
grande alliance.
Y compris donc à la fois et le PPE qui correspond, on va dire, au centre droit, et les conservateurs, ECR, et le groupe
Maréchal.
Parlementaire de Marion Maréchal, dont le nom m'échappe,
qui est
nommé l'autre également auquel appartient le Rassemblement National.
Ouais, les patriotes.
Tout ce petit bon, voilà, les patriotes se sont mis d'accord. À la majorité, voilà. Alors c'est doublement intéressant pour le Rassemblement national.
À l'initiative de Bellamy, hein, je crois.
Oui, alors Bellamy, effectivement, a un rôle important du point de vue français, mais enfin, il y a d'autres parlementaires étrangers. Mais alors ce qui est intéressant du point de vue du Rassemblement national, c'est que jusqu'à présent, Marine Le Pen en particulier, mais d'autres Rassemblements nationaux, avaient toujours refusé que ces aspects-là soient traités au niveau européen au prétexte de préserver la souveraineté nationale française. Et là, je pense que c'est l'influence directe de Fabrice Leggeri, que vous connaissez bien, qui est donc ancien haut fonctionnaire à l'Union européenne et actuellement
ancien
député.
Patron de Frontex.
Voilà, ancien patron de Frontex et député au Parlement européen. Et là, bien évidemment, ben là, on a une volte-face, mais que je trouve potentiellement positive, pour autant qu'on soit partisan d'une réglementation plus ferme sur ces sujets-là, bien évidemment.
Bien sûr.
On a vraiment un changement. Très clair du Rassemblement National sur ces sujets qui acceptent l'européanisation.
Une bonne nouvelle, on n'en donne pas beaucoup, mais merci Damien Chalamel d'apporter cette bonne nouvelle sur un plateau à nos auditeurs. C'est vrai que c'est très intéressant, même sur le plan politique, cette décision et ce vote. Hein. Jean-François Coulon-Désart.
Écoutez, un chiffre a retenu mon attention, 23 679.
Ah.
C'est le nombre de maires qui seront élus dimanche soir. Pourquoi ? C'est tout simple, parce que sur les 35 000 communes que compte la France, sur 23 669 communes, il n'y a qu'une liste. Donc vous êtes sûr de gagner.
Ouais.
Il n'y a qu'une liste. Ouais. Et pour la petite histoire, paraît-il. Il y a 60 communes qui n'ont aucune liste. Aucune liste. Personne n'a voulu y aller. Il va falloir réorganiser des élections dans 3 mois. Sinon, les communes risquent la fusion. Donc, il y a 900 000 candidats.
Est-ce qu'il y a une règle pour les communes où il y a une seule liste ? Est-ce qu'il y a un minimum d'électeurs requis ?
D'électeurs requis, si vous avez 2 voix, vous êtes élu. Vous avez la majorité.
Donc il n'y a pas de...
Donc il y a 900 000 candidats qui se présentent à ces élections municipales. Il faut savoir, et ça va être le chiffre qui va être intéressant dimanche soir, parce qu'en 2020, il y a 6 ans, donc, il y avait un taux de participation de 44,66%,
oui, c'est pas beaucoup,
ce qui est très peu.
On sortait
du Covid, oui, etc. Ouais. Alors que 6 ans avant, en 2014, il y avait plus de 63% des électeurs qui s'étaient déplacés. Alors, si on finit avec ce petit tour des communes, celle qui a le plus de listes, c'est Montpellier. Combien, à votre avis ?
Je sais pas.
Alors, 13 listes. 13 listes à se disputer la mairie de Montpellier. Il y a 8000 communes qui ont 2 listes. Vous voyez, donc c'est assez amusant. Il y a 27 000 maires qui vont être élus dimanche soir qu'une liste. Et la parité, je ne suis pas sûr que la parité
Parce que c'est très compliqué.
Soit une avancée
démocratique, j'en suis pas sûr.
En tout cas, c'est une des causes pour lesquelles il y a beaucoup de communes qui n'ont qu'une liste.
Voilà.
C'est parce qu'avec la parité, c'est très compliqué de constituer des listes.
Elle est
absolument obligatoire.
Et on ne peut plus rayer de noms. Avant, on pouvait rayer des noms.
Avant, on faisait une liste et puis les gens rayaient.
Voilà, c'est plus possible.
Même pour les communes de moins de 3 500
Même.
Oui,
même.
C'est le panachage.
Voilà, c'est le panachage.
Ça a été supprimé.
Voilà. Voilà, moi, c'est ça qui a retenu mon attention, quoi, une partie de mon attention cette semaine.
Mais écoutez, votre attention s'est portée sur un sujet passionnant. Philippe Charlès.
Oui, alors on y reviendra, mais disons qu'il faut quand même noter que cette semaine, le nucléaire est de retour en Europe.
Hein. Enfin.
Il aura fallu une matinée pour qu'Ursula von der Leyen déclare son amour au nucléaire après l'avoir haï pendant... plus d'une décennie.
Ouais, alors on y reviendra
tout à l'heure. Je dirais qu'en conclusion, l'amour et la haine se rejoignent et l'en fait en tout cas l'éclatante démonstration.
Excellent. Bon, eh bien, moi je passe mon tour hein, pour une fois. Je n'ai pas retenu d'actualité. Il y en a eu plein. Hein. J'avais tellement le choix.
Il y a un trop plein. Il y a un trop plein.
Voilà. Par contre, je vous ai préparé un petit édito. Avant les municipales, il y a un sondage qui sonne le grand retour de la France conservatrice et j'ai trouvé ça intéressant.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Le macronisme est mourant et le progressisme qui lui est ontologiquement lié aussi. ni fleurs, ni couronne. La preuve par un sondage. À la veille des municipales, Ipsos BVA saisit École d'ingénieurs pour le CVPOF avec Le Monde et la Fondation Jean Jaurès. Donc, pas de risque de dérive vers la droite extrême avec la Fondation Jean Jaurès. Donc, tous ces organismes, très bien sous tout rapport, livrent les résultats d'une grande enquête électorale qui a été réalisée du 27 février au 5 mars dernier sur 10 000 Français en âge de voter. C'est donc un échantillon très sérieux. Et le résultat, eh bien d'abord, après de tant de campagnes hostiles à la France, d'Assa Traoré jusqu'au président de la République, hein, vous vous souvenez des Gaulois réfractaires qui restent indéfectiblement français, eh bien 74% des sondés dans cette étude se déclarent attachés à leur pays. Ça fait 3 habitants sur 4. Alors, on peut trouver ça peu, mais c'est quand même pas mal. Ils sont aussi très attachés à la structure administrative la plus ancienne et la plus proche d'eux. C'est leur commune de résidence. 63% y sont très attachés. Elle est calquée sur les paroisses, vous le savez, sur les paroisses de l'Ancien Régime. La commune. Et ils aiment leur maire, ces Français. Près de 7 Français sur 10 lui font confiance. En dépit des efforts de nos progressistes, les Français ne sont donc pas devenus des citoyens du monde, loin s'en faut. Deuxième satisfaction, les substituts administratifs à ces attachements multiséculaires, je parle de la commune et de la paroisse, eh ben ils n'ont pas la cote. Seul un Français sur 3 est attaché à la fameuse intercommunalité, qui a l'avantage de fournir des postes juteux aux copains, mais qui coûte très cher aux contribuables. Les Français aiment leur maire, 69%, donc on l'a dit, mais 2 Français sur 3 se défient du Premier ministre et 3 sur 4 du président de la République. On comprend l'empressement du pouvoir à verrouiller les institutions du pays avant une éventuelle alternance. Enfin, troisième satisfaction, après bientôt 10 ans de présidence Macron, les Français s'inquiètent pour la France. Ils sont 31% à afficher leur optimisme pour leur commune, mais seulement 8% à être optimistes pour leur pays. Pour la France, ça prouve donc qu'ils sont un peu lucides. Ces intentions de vote dessinent deux France, les petites communes de moins de 1000 habitants qui restent ancrées dans la France éternelle et qui dessinent une France conservatrice à l'opposé des grandes villes bobos de plus de 100 000 habitants. La France qui reste et celle qui fait sécession, eh ben on verra cela dimanche soir. Il y a une inconnue en tout cas qui est prête à tout bousculer, ça vous le savez, c'est l'abstention. Il faut donc dimanche aller voter. Voilà. Genre on a parlé des élections, mais on n'a pas cité de parti. Hein, donc normalement, on respecte scrupuleusement les règles.
Est-ce que l'ARCOM est très tatillonne.
Est-ce que, à votre avis, on va avoir une vague conservatrice dimanche soir, Philippe Charlez, alors sans citer de parti, hein, c'est le petit exercice, c'est la corde raide.
Je crois que oui, dans le pourcentage global, mais dans les résultats finaux, notamment dans les grandes villes, pas sûr du tout, parce que ça va dépendre si oui ou non il y a des fusions de listes et des associations. Mmh. On le voit à Paris, où effectivement la droite conservatrice a relativement largement plus que la moitié des voix, mais c'est loin d'être certain qu'elle gagnera pour autant. N'oubliez jamais que nous avons la droite la plus bête du monde.
C'est vrai, elle nous le rappelle régulièrement. Damien Chalamel, est-ce que les Français iront voter ?
Non mais que faut-il conserver ? C'est ça qui appelle votre question. Parce que moi je ne me considère pas comme conservateur et j'aime pas ce terme. Mmh. Vous m'auriez dit la droite et la gauche.
Non mais là, vous voyez l'amour du pays, les petites communes,
qu'est-ce que vous voulez conserver, quoi le mariage gay, l'Union Européenne, la politique étrangère de M. Macron
donc vous vous définissez comme révolutionnaire en fait.
En tous les cas, je préfère encore le terme
de droite.
Réactionnaire, à la limite.
Ouais, réactionnaire.
Mais vous savez, c'est le problème des conservateurs, c'est toujours la question, que faut-il conserver ? Et il n'y a pas de tradition du conservatisme, en tous les cas en France, sur l'échiquier politique, qui soit avoué et qui se revendique comme tel. Causeur ou Commentaire, vous trouverez toujours quelques intellectuels brillants pour gloser sur le terme. Mais bon, maintenant, politiquement, ça ne représente rien. Et ça pose toujours la question, que faut-il conserver ? Donc, la droite conservatrice... Combien d'électeurs, je ne sais pas, je ne sais même pas de qui on parle en fait.
Ce mot provoque toujours des polémiques chez des Français, alors que pour des Anglais, il a un sens tout à fait naturel.
Mais parce qu'il est conservateur,
c'est celui qui s'inscrit dans un fil historique, tout simplement.
Et par opposition aux progressistes, effectivement, mais par opposition également aux réactionnaires, dans lequel, à la limite, certains Français de droite se retrouvent plus dans l'adjectif. Mais il n'y a pas de tradition politique du conservatisme comme tel en France, de ce mot, alors qu'on peut trouver tout à fait positif, de conservateur. Moi, je pense plus aux agents conservateurs, vous savez, dans les bonbons. et puis surtout, je dis, qu'est-ce que faut-il conserver? Bon, je ne sais pas.
Bon, la question est ouverte, on ne va pas y répondre tout de suite. Jean-François Coulon-Désart, est-ce que les Français iront voter?
Mais j'en sais rien. Écoutez, ils ont voté il y a 6 ans à 44%.
Pas de boule de cristal, non, j'ai pas de boule de cristal,
j'en sais rien, je le souhaite. Je veux dire, c'est un des rares actes démocratiques.
La municipale est quand même réputée avec la présidentielle comme l'élection où on vote le plus.
Non, ça devrait, il devrait plus voter, à mon avis, que lors de, il y a 6 ans, parce qu'il y avait les choses du Covid. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe, c'est vrai qu'on a la droite la plus bête du monde, et s'il n'y a pas d'union, il y aura défaite, ça c'est une certitude. Autre chose déjà qu'on peut tirer de ce scrutin, c'est que la Macronie arrive avec zéro et repartira avec zéro. Ça c'est aussi, ils n'ont pas du tout une implantation locale, la Macronie, jamais. Donc ils repartiront avec zéro. Là maintenant, il y a une chose qu'on va surveiller, c'est les alliances de l'autre côté de l'échiquier. Savoir ce que vont faire les socialistes et puis les gens de Monsieur M, parce qu'il ne faut pas citer de nom, c'est ça, de Monsieur M, point de suspension.
Voilà.
La République, c'est moi, monsieur. Voilà. Ouais. Parce que, comme depuis Jaurès, vous allez voir qu'ils vont s'allier. Vous allez voir qu'ils ont beau dénier, dire jamais, oh mon Dieu, etc., ça finira par une alliance.
À condition qu'ils ne soient pas violents.
On a le même sketch.
Vous voyez, Marc,
on a le même sketch à chaque élection.
Voilà. L'ambiguïté du mot conservatisme. On peut parler de l'écologie d'une manière générale, sans parler de parti politique ni de candidat. L'écologie devrait être un conservatisme, mais quand vous voyez comment électoralement, politiquement, elle se traduit en France, nos écologistes sont des conservateurs en peau de lapin, en lapin. Ce sont plutôt, je dirais, de ce point de vue-là, peut-être plus des révolutionnaires, en tous les cas des progressistes qui pensent que demain sera mieux qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui est mieux qu'hier. La définition du progressiste. Bon. Mais est-ce que vous voulez-vous conserver l'euthanasie? Je n'en sais rien. Non.
Je sais pas. Ça fait pas vraiment partie de la plateforme conservatrice, on va dire. Très bien. Mais on fera une émission spéciale sur ce thème.
Non, mais il y a des conservateurs qui veulent conserver l'euthanasie, le mariage gay. J'entends bien.
Vous voyez, c'est pas ce qu'on appelle des conservateurs. En tout cas, pas dans mon esprit.
C'est pas Monsieur Retailleau que vous pensez.
Non. Voilà. Allez, on va parler de Quentin tout à l'heure, à partir de d'ici une petite heure, au cœur d'une bataille médiatique, mais. Auparavant, le pétrole prend feu, la France fait face à un véritable incendie planétaire.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Alors nous avons déjà évoqué deux fois dans cette émission le conflit iranien avec Richard Haddad la première fois et avec François Costantini depuis de science sur l'international la deuxième fois. Qu'ils soient tous les deux ici à nouveau remerciés amplement. La guerre en Iran continue de faire rage avec des retombées majeures sur un produit qui est vital pour notre population, le pétrole, l'essence que nous mettons notamment dans nos réservoirs de voitures. Alors nous allons nous concentrer aujourd'hui sur cet enjeu et j'aimerais qu'on ausculte les erreurs au passage, les erreurs de nos gouvernants sur ce dossier. Alors on a beaucoup d'éléments, mais je voudrais qu'on commence par les prix à la pompe, hein, parce que ce sont ceux qui concernent les Français au quotidien. Et les Français s'inquiétaient à juste titre de la flambée du pétrole au début de la crise iranienne. Le pouvoir nous avait expliqué qu'on avait tort à cause des stocks stratégiques, mais on n'avait pas si tort que cela, puisque les prix à la pompe flambent. On est souvent autour de 2 euros, on les a même dépassés dans certains endroits. Vous allez nous dire tout ça. On a fait état, en tout cas sur BFM, de 18 centimes de hausse en 1h30 au milieu de la semaine qui vient de s'écouler. Le gouvernement demande que les baisses soient impactées aussi vite que les hausses. Et je voulais qu'on écoute la porte-parole du gouvernement, c'était ce 11 mars sur BFM TV. Maud Bréjean.
18 centimes de hausse à la même station-service en l'espace d'une heure et demie. Est-ce que c'est de l'abus ou pas? En tout cas, moi, j'ai aucune explication pour justifier 18 centimes de hausse en une heure et demie. Je n'ai pas regardé l'exemple de cette station-service. Ce que je vous garantis, moi, c'est que nous, on veille, avec Roland Lescure, avec Serge Papin, à s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus. On a demandé une chose extrêmement claire aux distributeurs. C'est que les hausses qu'on a vues, qui ont été impactées très vite lors du début de la crise, soient égales, si je puis dire, en baisse dans les jours à venir. Je vais le dire plus clairement, les baisses doivent être impactées aussi vite que les hausses l'ont été. Mais...
Voilà, nous sommes avec Nicolas Maillan et Philippe Charlès, tous les deux experts en politique énergétique. Merci Nicolas Maillan de nous avoir rejoints. Vous êtes un expert donc du pétrole notamment, hein, mais de toutes les énergies, tout à fait reconnu. On vous voit souvent sur différents écrans de télévision. Et Philippe Charlès, que nos auditeurs connaissent bien et qui a tous les diplômes et toutes les compétences sur ce sujet, vaste sujet dont il nous parle régulièrement. Donc Maud Bréjon, vous avez entendu. Où en sont, je voulais vous poser d'abord la question tous les deux, où en sont les prix à la pompe, peut-être vous, Nicolas Maillan, déjà, et est-ce qu'on avait entendu que ça avait flambé, puis que ça avait baissé, on a l'impression que ça repart à la hausse, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre peut-être dans les jours prochains, parce que je ne vous demande pas de perspective à 6 mois, parce que c'est plus compliqué, mais à 3 jours, ou à 4, et est-ce que le reste du pétrole monte aussi, est-ce qu'on est en gros au seuil d'une période qui va être difficile pour les consommateurs, les automobilistes et aussi tous ceux qui achètent du pétrole, les entreprises, etc.
Écoutez, merci déjà, bonsoir à tous les auditeurs, merci de votre invitation. Pour entrer dans le vif du sujet, où est-ce qu'on en est sur le prix du pétrole ? Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir que les prix du pétrole, en fait, ils sont récupérés toutes les semaines. Et donc, aujourd'hui, on a les données de vendredi, il y a une semaine. Donc, les données de cette semaine et notamment de ce vendredi vont être publiées lundi. Donc il faut me réinviter lundi pour que je réponde à votre question. Mais bon. On connaît maintenant qu'est-ce qui influence le prix du pétrole.
Ouais.
Le prix du pétrole, comme vous le savez, on va le dire aussi pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Comme ils le savent, quand ils font le plein de pétrole, ils font surtout le plein de taxes.
Ouais.
En majorité, puisqu'il y a presque 1 euro de taxes par litre de carburant. Donc on va dire que c'est la moitié, grosso modo. Après, il n'y a pas que du pétrole, en fait. Il y a du pétrole, il y a la part du pétrole qui va être importante, donc le cours du Brent, donc les gens voient le cours du baril monter et descendre, ils se disent ça va être pareil pour mon plein. Pas exactement, parce qu'il y a aussi la parité entre l'euro et le dollar. Plus le dollar est fort, plus le dollar est fort, plus ça va nous coûter cher d'acheter du pétrole. Donc plus le pétrole part en dollars mais en euros va coûter cher. Et puis il y a un troisième facteur qui s'appelle le coût de raffinage, parce que dans votre voiture vous ne mettez pas du pétrole. Vous mettez de l'essence ou du diesel, donc il faut transformer le pétrole, et ça a aussi un coût, et ça dépend notamment des capacités de raffinage au niveau mondial, pas au niveau de la France. Donc ça dépend pas des distributeurs, et typiquement depuis...
Il y a combien de raffineries en France encore ?
C'est une bonne question, je pourrais pas vous répondre.
Je dirais qu'il y en a 5 ou 6 à peu près.
C'est tout, ouais. On en a fermé beaucoup.
Alors. On en a fermé pas mal, et notamment il y en a une très grosse, hein, qui
Charlès
est située
répond.
À Lamède. Donc Lamède, c'est sur les temps de Ber, hein, au nord de Marseille, qui était une très grosse raffinerie et qui a été transformée en raffinerie d'huile de palme, en fait, pour faire des biocarburants. Non, mais les biocarburants, ça se mélange à l'essence, donc, et qui ne raffine plus du diesel et de l'essence. Alors, et de l'essence pure. Mais globalement, les capacités de raffinage au niveau européen, pas seulement au niveau français, mais au niveau européen, ont quand même relativement diminué.
Parce qu'on est arrivé à un paradoxe, quand on avait des voitures diesel,
oui.
Parce que dans la ligne de pétrole, je passe sous votre contrôle,
on
ne peut pas faire 100% de 95 ou de 98 d'essence. On fait un peu de diesel, un peu de super, et puis du plastique, etc. Et comme on avait trop de voitures diesel, on apportait du diesel à prix fort, et on vendait notre essence raffinée à prix faible.
Oui,
c'était très fort, ça aussi.
Ouais, alors bon, ça, c'est encore autre chose. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais je voulais savoir, pour revenir sur Maud Bréjon, quel levier...
Attendez, faut que je finisse la décomposition.
Alors, allez-y.
Donc, on parlait de la marge.
Il faut se battre à
Nicolas Maillan. Oui.
Alors, moi, je ne me bats pas. Donc,
la parole,
pas de problème, je vous la laisse. Mais par contre, je la reprends après.
Vous l'avez.
Donc, coût de raffinage. Donc là, depuis le conflit en Ukraine, coût de raffinage, ça coûte 4 fois plus cher de raffiner, de faire de diesel que de faire de l'essence. Parce qu'on a perdu les capacités de raffinage de la Russie. On les avait compensés en passant par l'Inde. Donc l'Inde achetait du pétrole russe à moins 30% et nous vendait du diesel indien. C'était magique, comme ça on ne consommait pas de pétrole russe.
Ouais.
Et là, les Indiens se sont fait taper sur les doigts par Donald Trump. Ils n'ont plus le droit d'acheter du pétrole russe. Donc ça a encore réduit les marges. Sauf qu'il y a deux jours, Donald Trump vient de leur donner un blanc-seing pour pouvoir avoir 30 jours pour pouvoir racheter du pétrole. Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment à Hormuz, on voit le coût de raffinage.
Du pétrole russe, vous voulez dire.
Du pétrole russe.
Oui, c'est ça.
Le coût de raffinage a explosé. Donc,
surtout le diesel.
Donc je ne suis pas en mesure de vous dire où est-ce qu'on en est sur le coût de raffinage du diesel et comment ça a évolué cette semaine. Il est probable que ça continue à augmenter. Mais grosso modo, on est à 2 euros du litre. Et pour vous montrer ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, en une semaine, on est monté de 10 centimes sur l'essence et on est monté de 25 centimes sur le diesel. Et pourquoi 25 centimes ? Parce que c'est le coût du raffinage qui a explosé. Donc là, le prix du pétrole, il est resté à peu près à 100$. On est un petit peu augmenté par rapport à la semaine dernière. Donc,
c'est le baril, c'est 100$ le baril.
Donc 159 litres pour nos auditeurs.
Ouais.
Donc ce qui ne coûte pas grand-chose finalement, puisque c'est moins de 50 centimes du litre.
Nicolas Meyer, qu'on comprenne bien, dans le raffinage, le transport est compris ?
Non, ça c'est la
marge de distribution.
Ça c'est la marge de distribution, c'est le dernier point. C'est le coût de la distribution aujourd'hui, donc qui est aujourd'hui de un peu plus de 30 centimes. Et il faut savoir que dans les 30 centimes, il y a un impôt indirect qui se cache, qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, qui ont d'ailleurs augmenté de 6 centimes au début de l'année. Donc les taxes sur le carburant ont augmenté au début de l'année. On en avait un petit peu parlé fin novembre et puis on est passé à autre chose. Et donc pour les distributeurs, il reste à peu près 15 centimes. Et avec 15 centimes, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent aller chercher le pétrole ou le diesel à Rotterdam, l'amener dans la station d'essence et le distribuer, grosso modo. Mais je laisse Philippe Jarès peut-être compléter, puisqu'il connaît aussi le sujet.
En gros, quels sont les leviers ? Est-ce que Maud Bréjon dispose de vrais leviers pour réduire la facture ? On a vu qu'ils avaient convoqué les pétroliers, vous vous souvenez, le gouvernement fait quand même beaucoup de ronds dans l'eau sur cette affaire. Est-ce que vraiment ils ont la main ? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose ?
D'abord, pour compléter les chiffres de Nicolas, donc j'ai fait des calculs juste avant de venir, on peut dire que globalement depuis le début de l'année, alors au début de l'année, les carburants étaient relativement bas, parce que le baril était à $60, là il est passé à $100, on peut dire à peu près, quand on fait un calcul de coin de table, que $10 de plus sur le baril, ça fait entre 5 et 6 centimes de plus sur le litre d'essence. C'est à peu près ça. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est avec ce que Nicolas a dit, donc notamment sur les marges de raffinage du diesel qui ont beaucoup plus augmenté que les marges de raffinage sur l'essence, sur l'SP95, on a globalement, depuis le début de l'année, pris 30 centimes sur l'essence et 40 centimes sur le diesel. On était à 1,60 sur le diesel.
Depuis le début de l'année, c'est quand même considérable.
On était à 1,60 sur le diesel et on est passé à 2 et on était à 1,70 sur l'essence et on est aussi à peu près passé à 2 parce que dans les taxes ce qu'on appelle la TICPE est un peu supérieure sur l'essence que sur le diesel. Alors tout ça, j'ai fait un petit calcul global en année lycée parce qu'il faut savoir qu'on consomme quand même en France 2/3 de diesel et 1/3 d'essence. On a plus de diesel que d'essence et donc si vous ramenez cette augmentation sur l'ensemble de l'année, ça fait pour les Français une facture de 21 milliards d'euros supplémentaires. Voilà.
Énorme.
Donc c'est quand même énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on décompose ces 20 milliards d'euros sur l'année, tenant compte effectivement de l'effet plus important sur le diesel que sur l'essence, 51%, avec un baril à $100, j'ai fait les calculs, et puis le baril pourrait encore augmenter. Mais je veux dire, aujourd'hui, on est aux environs de $100, j'ai fait le calcul. Donc, à peu près la moitié, 51%, c'est dû au baril, 18% est dû au raffinage, et vous avez 27% qui est dû à l'État. Parce que vous avez en fait la somme de l'impact de la TVA 20% qui s'applique sur le produit hors taxe qui lui a augmenté.
Ouais,
et ce que Nicolas a expliqué, c'est que depuis le début de l'année, les certificats d'économie d'énergie ont augmenté de 6%. Alors, ce n'est pas une vraie taxe, c'est une contribution. Mais enfin, c'est quand même payé par le consommateur. Et donc, en fait, ça veut dire que l'État, depuis le début de l'année, se met dans la poche, sur chaque litre d'essence, 27% de l'augmentation.
Oui, c'est ça. Donc, c'est très rentable pour l'État, cette affaire.
Alors, c'est rentable pour l'État sur le papier, mais si vous voulez, la hausse du prix du carburant, elle a quand même un autre impact.
Sur la
consommation, donc ils vont perdre de la TVA. C'est plutôt une très mauvaise nouvelle, cette rentrée de TVA. Mais donc, on parlait de solutions. Des solutions, il en existe. D'ailleurs, ils en avaient trouvé une il y a 4 ans. Ça s'appelle la ristourne. La ristourne, c'est quoi? On baisse temporairement la TICPE. C'est ce qui s'était passé avec 30 centimes, 20 centimes, 10 centimes. Donc, on peut faire des choses. On pourrait faire un bouclier fiscal, se dire que sur un litre de carburant, on ne peut pas prendre plus de 90 centimes de taxes tout compris, ou de 1 euro de taxes tout compris, et comme ça ça permettrait de limiter les hausses. Donc il y a beaucoup de solutions qui sont possibles, la moins intelligente étant toujours le blocage du prix, puisque celle-là elle finit toujours par une pénurie.
Damien Chalamel.
Pour prolonger sous forme de question votre propos, ce à quoi vous faisiez allusion, il me semble-t-il, c'était la mesure qui avait été décidée sous Jospin. C'est en 2020, c'était il y a longtemps, mais en tout cas, cette notion de TICPE flottante, c'est ce à quoi vous faisiez référence. Et effectivement, il y a quelque chose d'assez incongru à envisager, l'idée que la TVA augmente effectivement parce que la base, le prix sur lequel la TVA est assise, le prix hors taxe, a augmenté. Et que donc il y a des recettes fiscales bien plus importantes,
supplémentaires.
Et donc c'était ICPE flottante. C'était l'idée, c'était de conserver en gros le même pourcentage de taxes au bénéfice de l'État, mais de faire en sorte que quand le montant brut hors taxe augmente du fait de facteurs exogènes, l'État ne gagne pas plus avec notamment cette TVA. Et donc c'était d'ajuster. Alors moi j'entends Monsieur le ministre Roland Lescure nous dire que c'est une mesure qui n'a ni queue ni tête, mais il n'explique pas pourquoi elle n'a ni queue ni tête. En réalité, cette mesure, alors je ne sais plus, vous allez peut-être me dire la période pendant laquelle elle a été adoptée, elle a été pratiquée, cette TICPE flottante.
Elle a été pratiquée surtout il y a 4 ans par le même gouvernement. Donc
c'est M. Lescure qui dit n'importe quoi.
Il nous explique que ce qu'ils ont fait il y a 4 ans n'a ni queue ni tête.
Voilà, c'est ça. Donc oui, voilà.
C'est original. On peut être d'accord sur certains points, d'ailleurs.
D'accord. Alors... Et là, oui, juste le propos de Madame Bréjon, là, où il me paraît totalement absurde, c'est que en France, les prix sont libres. Et quand même,
oui, mais il y a toujours une espèce de réflexe soviétique de vouloir.
Non, mais
un peu brider,
c'est un réflexe de couleur, ce qui s'est
passé sur cette station, c'est juste qu'elle a mis à jour ses prix parce que les prix ont augmenté. Donc, effectivement, s'ils sont passés une heure et demie après et qu'ils ont mis à jour leurs prix, comme je vous l'ai dit, le litre de diesel, il a augmenté de 25 centimes, donc à un moment donné, ils augmentent leur prix. S'ils passent au mauvais moment, effectivement, le prix a augmenté.
Philippe Charlès.
En tout cas, quand on regarde la décomposition dont Nicolas a parlé tout à l'heure et qu'on regarde la marge de distribution pure, d'accord, c'est-à-dire en fait la marge de distribution à laquelle on a retiré les certificats d'économie d'énergie, puisque dans les faits, ils sont intégrés dans la marge de distribution. Donc c'est de l'ordre de entre 30 et 32 centimes, et on en retire à peu près 14 centimes. Et donc, si on regarde cette marge de distribution, c'est le seul élément qui n'a pratiquement pas varié et qui a même un peu baissé. Ce qui veut dire que ce n'est pas le pompiste qui s'en met plein les poches aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a peut-être quelques cas exceptionnels, parce qu'il y a quand même, je crois que c'est 10 000 pompes à essence en France, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que oui, il y a peut-être un ou deux cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on nous a laissé entendre que c'était le distributeur qui... je vais dire exagéré, en fait c'est pas du tout le cas.
Mais on n'a pas le droit de vendre à perte en France.
Et en plus on n'a pas le droit de vendre à perte. C'est pour ça que le blocage des prix est une ineptie. Mais tout ce qui vient de LFI est une ineptie. Comment fait monsieur
Leclerc alors, puisqu'il annonce que pendant 48 heures les
question,
prix...
Les 30 centimes, je sais pas où il va les chercher. Parce que grosso modo, sa marge de distribution, eux généralement elles sont plus bas puisque c'est un produit d'appel pour faire venir les gens, donc ils sont peut-être à 5 ou 10 centimes. Et il dit qu'il a négocié ça auprès des raffineurs, donc c'est-à-dire qu'il leur a payé 30 centimes, 20 centimes moins cher son essence. La marge de raffinage sur l'essence, elle est de 7 centimes, donc elle est un petit peu plus élevée
sur le diesel maintenant à cause de l'explosion.
Bien sûr, elle est à 25 centimes, mais sur l'essence.
Mais elle est à 7 centimes sur l'essence.
Les gens achètent de l'essence principalement en France.
On va essayer de voir où on va sur le prix à la pompe et si ça peut être pire que ce que c'est déjà. Après cela.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et nous sommes en compagnie de Jean-François Coulon-Desarts, Damien Chalamel, Nicolas Meillan, expert en politique énergétique, et Philippe Charlaise, pareil, expert en politique énergétique que nous connaissons bien. Et je voulais vous poser la question. Le baril est aujourd'hui donc à autour de 100 dollars. On parle, j'ai entendu sur d'autres antennes, évoquer des prix de 200, 250 dollars. Est-ce que ça vous paraît possible? Et dans ce cas, combien est-ce que les Français paieront leur litre d'essence? Est-ce que ça sera 4 euros? Est-ce que ça peut arriver? Nicolas Meillan.
C'est une bonne question, mais le pétrole est une énergie globale, mondiale, il y a un prix pour tout le monde, et généralement, si le prix augmente assez rapidement, ceux qui n'ont pas les moyens de se le payer ne se le payent plus, et donc ça fait baisser la demande. Donc on peut monter probablement à 150 dollars. Si on voulait monter au même niveau qu'en 2008, ce serait 220. Hein, puisqu'il y a eu un peu d'inflation
depuis.
Ah oui,
c'est déjà arrivé.
Donc ben, en 2008, on était à 220 dollars. Ah ouais. 220 dollars d'aujourd'hui.
En euros courants.
Voilà, ouais. en dollars constants. En enlevant l'inflation, hein, on était à 150 à l'époque. Donc oui, c'est possible. Mais pour entrer concrètement dans les faits, moi, sur le diesel, avec les contraintes et les balles dans le pied que nous nous sommes tirées avec la Russie, 2,50 euros, ça me semble tout à fait accessible assez rapidement. Avec un pétrole, il faudrait faire les calculs.
Assez rapidement, mais là, si on voit, c'est une question de semaine ou de...
Non, mais regardez, vous faites un scénario où le pétrole augmente à 150 dollars le baril. Je ferai pas le calcul dans ma tête. 150 dollars le baril. Là, le dollar se renforce. Donc, on va dire qu'il était à 1,20 début d'année. Il peut passer à 1,10. Et puis derrière, sur la marge de raffinage, au lieu d'être à 25 centimes, vous montez à 60 centimes comme ça s'est passé il y a 4 ans. Et vous y êtes sans problème.
Et si je comprends bien, 150 dollars le baril, c'est 3 euros le litre. Hein.
C'est à peu près ça. J'ai calculé qu'avec 250 dollars le baril, par rapport à aujourd'hui, on prend à peu près 1 euro de différentiel sur le litre. Sans tenir compte du GG, calculé mes 6 centimes par 10 dollars.
Ouais. Parce qu'aujourd'hui,
il faut rajouter à ce moment-là
la TVA qui, effectivement, mécaniquement, va de nouveau faire flamber le prix.
Ouais, le pouvoir d'achat des Français n'est pas à l'abri. Alors, je voulais qu'on réécoute Maud Bréjon. Une seconde. Quelle marge de manœuvre pour le gouvernement?
Comment vous allez le vérifier? Et surtout, comment vous allez obliger à ceux qui n'auraient pas envie de baisser si le pétrole baisse, alors que les prix sont libres en France?
Okay. On n'est pas dans une économie administrée, c'est une certitude.
Donc les stations font ce qu'elles
veulent. On a réuni les distributeurs la semaine dernière. On réunira les distributeurs demain, à Bercy. On a procédé à un certain nombre de contrôles. On suit l'évolution des prix dans chacune des stations. On a des outils qui nous permettent de le faire. Notre volonté, c'est de travailler de façon intelligente avec les distributeurs et plus globalement avec l'ensemble de la chaîne. Donc je le redis, les baisses doivent être répercutées aussi vite que les hausses l'ont été. Et je remarque, et c'est tant mieux, qu'un certain nombre de distributeurs ont déjà annoncé que ce serait le cas, notamment ce matin, je pense à un grand distributeur qui a annoncé...
On va le citer, c'est Leclerc, qui a annoncé dit à la fin de la semaine baisse de 30 centimes.
Une baisse d'environ 30 centimes. C'est évidemment substantiel pour le pouvoir d'achat des Français. Et donc je crois qu'on a une responsabilité collective. Là encore, ce n'est pas l'État contre les acteurs privés, c'est tous ensemble, dans un moment de crise internationale qui nous dépasse à certains aspects, trouver des solutions qui permettent de protéger les Français.
Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, est-ce que elle a un vrai pouvoir ou est-ce qu'elle fait des ronds dans l'eau, Nicolas Meillan?
Vous voulez vraiment que je réponde?
Oui.
Non, je pense qu'elle sert concrètement à rien, mais comme elle est porte-parole, il faut bien qu'elle en débite quelques-unes. Moi, j'ai entendu M. Poutine qui nous proposait de nous donner du diesel. Peut-être que ça pourrait nous aider, ça, à faire baisser les marges, on va en parler
tout à l'heure, on l'écoutera même.
C'est un peu facile, et puis dans quoi? Dans 3 ans, il nous fera un mea culpa? Ah oui, bah, peut-être qu'on aurait dû, comme Mme von der Leyen, ah bah oui, peut-être qu'on n'aurait pas dû se passer du pétrole et du diesel russe. Je dirais, à un moment donné, il faut être un petit peu réaliste. De toute façon, l'Europe, si elle ne récupère pas, ne retravaille pas d'une manière ou d'une autre avec la Russie, et accède à l'énergie bon marché, que ce soit sur le pétrole, le diesel ou le gaz, elle disparaîtra. Donc autant commencer à le faire maintenant.
Ah oui, vous y allez carrément. Vous pensez que...
Le grand gagnant, c'est Poutine, dans cette histoire.
On y reviendra. Bah,
oui, on va y revenir. Mais
c'est notre grand allié européen. Vous avez oublié.
On va en parler tout à l'heure.
Je voulais quand même rajouter un point qui est important, que Nicolas a cité. mais pas développé, c'est ces fameux certificats d'économie d'énergie. Donc les certificats d'économie d'énergie qui interviennent dans la marge de distribution. Donc ce n'est pas une taxe, c'est un prélèvement, une contribution qui est quand même aujourd'hui de l'ordre quand on rajoute la TVA, puisqu'on paye la TVA sur les certificats d'économie d'énergie, puisque ça s'applique sur le... Les certificats d'économie d'énergie interviennent dans le prix hors taxe, donc on applique la TVA, donc on applique
profit.
La TVA, il n'y a pas de petit profit. Ouais. Ça fait à peu près 16 centimes d'euros.
16 centimes
d'euros sur
les deux.
On a échangé, on les a justement revus hier.
Franc.
Et donc moi, ma proposition...
La foire aux taxes, hein, ce pays. Hein.
C'est effectivement de suspendre au moins ces certificats d'économie d'énergie. Alors, à quoi servent ces certificats d'économie d'énergie ? Ils sont donc payés par le consommateur à la pompe à essence, et puis après, ils sont rétrocédés par le distributeur à l'État, qui les redistribue aux consommateurs pour notamment rénover toute action en faveur de la transition énergétique. Et donc, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation...
Incroyable. On est en France.
Une solution serait au moins... Alors, je ne vais pas dire de les supprimer. Moi, je suis pour les supprimer, mais on ne va pas aller jusqu'à là. On va dire, pour l'instant, au moins de les suspendre pendant quelques mois. Déjà, ça allégerait la facture de 16 centimes d'euros. J'ai compté que sur à peu près les 20 milliards aujourd'hui de coûts, ça en couvrait la moitié. Et ça n'enlève pas de recettes à l'État.
Donc on peut faire baisser le prix.
Donc ça, avec les certificats d'économie d'énergie aujourd'hui...
Mais qui a inventé ces certificats? C'est l'Europe ou c'est nous?
Oui, alors oui, justement,
un peu des recettes de l'État, parce que...
L'État ne les redistribue plus.
Aujourd'hui, il l'utilise pour notamment... les bonus sur les achats des voitures électriques.
Absolument, c'est transformé.
Donc en fait, ça va être un tout petit peu compliqué parce qu'ils vont dire, mais vous êtes gentil, vous voulez, alors qu'il y a une crise pétrolière, qu'on arrête d'inciter les gens à acheter des voitures électriques.
Je pense mais alors là, attendez,
il y a une chose diabolique derrière tout ça.
Quelque chose que je ne comprends pas dans votre remarque, vous dites ça prive de recettes fiscales l'État, mais on vient de partir du scénario dans lequel le prix du pétrole et du pétrole raffiné, essence ou diesel, explosait. Donc ça veut dire qu'on est bien d'accord que les recettes, la TVA, elle, mécaniquement, elle augmente. Donc quand on parle, dans ce que vient de dire Philippe Charlez, de par exemple diminuer, voire supprimer
une
part des taxes qui sont des taxes fixes, hein, dont vous parlez, celle dont vous parlez, c'est une taxe
certificat
fixe.
Certificat d'économie d'énergie, oui. C'est une taxe fixe.
Oui. Voilà.
Enfin, c'est pas une taxe, mais disons que c'est une contribution.
Cette contribution, ça revient à cette idée de TICPE flottante.
Oui.
Et donc, en fait, ça peut marcher. Alors,
de toute façon, les écolos vont vous dire effectivement qu'à partir du moment où on baisse le prix d'essence, que ce soit sous forme de TVA ou que ce soit sous forme de certificat d'économie d'énergie, c'est un mauvais message par rapport à l'électrification des usages.
Je pense qu'il y a un juste milieu, Philippe. On peut déjà revenir sur la hausse de début janvier et enlever déjà 5 centimes.
On pourrait déjà enlever les 5 centimes.
On a déjà fait un tiers du chemin, c'est pas mal.
Qui a inventé cette fameuse contribution?
Alors ça vient essentiellement de l'Europe.
Voilà, merci Laurent, une fois de plus. Alors, question.
Et d'ailleurs, c'est à vérifier, mais que la supprimer demanderait une autorisation de Madame von der Leyen.
Non. Ah, mais c'est comme toujours. C'est la liberté du pays.
cette taxe est dans toute l'Europe.
L'impact, nous avons parlé du prix de l'essence. C'est difficile d'en placer une dans cette émission, c'est compliqué. Mais. C'est ce qui fait son charme. L'impact sur le prix de l'essence s'accompagne d'un impact sur le prix du gaz. Hein, parce que c'est pas tout. Une fois que vous êtes fait un peu taper sur la coloquinte à la pompe à essence, eh bien vous avez le match retour sur la facture de gaz. Comment, Nicolas Meillant, est-ce que vous pouvez nous expliquer le phénomène et surtout, qu'est-ce qu'on va voir comme impact?
Eh bien...
Et à cause de qui?
Il se trouve que quand vous bloquez donc le détroit d'Ormuz, alors c'est pas d'ailleurs que le blocage du détroit d'Ormuz, c'est que vous avez quelques grands producteurs de gaz, vous avez aux États-Unis, vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, puis vous avez le Qatar, hein, c'est les trois grands producteurs de gaz. Et le Qatar, sa plus grande installation et terminaux de gaz naturel liquéfié a été attaqué par un drone, donc ils l'ont fermé. Et ça, c'est 20% quand même de la demande de gaz au niveau mondial. Donc ça, gaz naturel liquéfié. Donc celle-ci, détroit ouvert, détroit fermé, de toute façon, ça fonctionne pas. Et donc ça fait réagir les bourses, hein, avec des prix qui augmentent, sachant qu'il faut bien avoir en tête que les gens n'achètent pas du gaz que sur les bourses, hein. On a aussi des contrats souvent à long terme, et là le prix spot augmente. Pour vous donner un exemple, on était descendu assez bas, puisqu'on était à peu près à 30 euros du mégawattheure. Je rappelle qu'on a été monté en août 2022 à presque 350 euros du mégawattheure sur le gaz, hein, donc 10 fois plus. Et là, on a augmenté donc 80%, c'est beaucoup, mais on reste quand même à 50, donc entre guillemets, je ne vais pas dire que c'est raisonnable, mais on n'est pas encore sur, on n'est pas encore sur une explosion. Quel impact ça va avoir ? Alors, le gaz peut avoir deux impacts pour nous. Ça peut avoir un impact sur le prix de l'électricité, ça c'était le cas avant, puisque dans tous les pays européens, généralement, ça comme on ouais. Bref, si le prix du gaz augmente, ça va faire monter le prix de l'électricité.
Oui, oui, à cause de l'histoire de la dernière centrale, etc. Mais bon c'est un impact direct sur le prix.
C'est pas le cas en France. On regarde les prix de l'électricité en France, ils ont pas été. Ah, ils ont été un petit peu impactés. D'ailleurs, je dis une bêtise. Ils ont un tout petit peu monté.
Aux heures de pointe, quand on utilise du gaz.
Mais moi, je parle des prix, surtout des prix à terme, plus que les prix spot. Donc sur le prix de l'électricité, pour l'instant, l'impact est vraiment très limité. Maintenant, quand vous chauffez au gaz, ça peut effectivement avoir un impact. Mais les Français, généralement, ont des contrats sur un ou deux ans. Donc tout dépend de la suite des opérations. Soit Donald Trump arrive à trouver une porte de sortie d'ici la fin du mois de mars et, entre guillemets, on pourra sauver les meubles. Porte de sortie en Iran, ouais. Soit la situation continue de s'escalader, d'aggraver, on a d'autres infrastructures gazières et pétrolières qui sont détruites, et là on rentre dans un autre monde.
Et alors, ouais, une question pour vous, Jean-François Coulon, juste une seconde. Oui. Un autre monde, ça veut dire qu'on maîtrise absolument plus l'évolution des prix, c'est ça que ça veut dire, hein?
Ça veut dire qu'en fait, il y a d'autres impacts, parce qu'on parle beaucoup de pétrole et du gaz, mais par exemple, on pourrait parler des semi-conducteurs. Hein, parce que le gaz, par exemple, les gens qui fabriquent des semi-conducteurs, ils en utilisent beaucoup, que ce soit en Corée du Sud, que ce soit à Taïwan. S'ils n'ont plus de gaz, plus de semi-conducteurs. En fait, si vous voulez, il faut voir que le détroit d'Ormuz et le Moyen-Orient, c'est le début de toutes les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial. Et donc, si vous mettez... moi, je compare un peu le détroit d'Ormuz au cœur de l'économie mondiale. Ou le détroit étant l'artère, on va parler d'artère. Et dans ce cas-là, vous avez un gros caillot. Si on n'arrive pas à faire sauter le caillot, ça va...
l'embolie.
Oui, mais alors, sur le détroit d'Ormuz...
Toutes les chaînes d'approvisionnement, toutes les industries vont être impactées, c'est ça qui est terrible.
Ouais. Sur le détroit d'Ormuz, on nous raconte que 20% du pétrole passe par le détroit d'Ormuz, et généralement à destination des Chinois, si j'ai bien compris.
Du sud-est asiatique, Japon. De l'Asie.
Alors, les 80%, ils sont où, qui restent?
Alors attendez, 20% de la consommation, d'accord? Non, c'est pas du transport, c'est un tiers du transport mondial, ce qui est un peu différent, puisqu'il y en a qui consomment leur propre pétrole, pas nous parce qu'on n'en a pas, mais les Américains ou les Russes, après c'est les Russes, c'est les Américains, si vous voulez. Nous, auparavant, en fait, pourquoi est-ce que ça part vers l'Asie? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont la plus grosse demande. Nous, on s'est réorienté, si vous voulez, on était dépendant de... En partie, je parle de l'Europe, bien sûr, hein, pas que de la France, mais de la Russie, et de la Norvège aussi, mais... On a remplacé la Russie par qui ? Par Donald Trump. Bon, excellente idée, bravo, félicitations. Mais donc, on dépend moins du Moyen-Orient que de toute façon des Asiatiques.
Alors, il faut peut-être bien différencier pétrole et gaz. Mais avec le gaz naturel liquéfié, on vient un peu au pétrole. Le pétrole, en fait, il circule de façon extrêmement fluide, si j'ose dire, sur l'ensemble des océans de la planète. Pour vous donner un exemple qui est assez marquant... Quand je m'occupais d'un asset en Angola et que j'envoyais un pétrolier à Rotterdam, il changeait à peu près 20 fois de la cargaison changeait 20 fois de propriétaire sur le chemin. Et donc là, on a vu récemment, par exemple, soit des pétroliers, soit des méthaniers qui venaient vers l'Europe faire demi-tour pour aller vers la Chine. Donc c'est là que vous voyez que c'est un vrai marché de l'offre et de la demande et que effectivement c'est le meilleur payeur qui aura la cargaison.
Moi, j'ai une observation,
Damien Chalamel,
et en réponse également à Jean-François, c'est que j'ai lu ces jours-ci que la République iranienne, islamique iranienne, dans sa magnanimité, a laissé ouvertement passer un pétrolier qui appartenait à un armateur. Il était sous pavillon, plus panaméen ou je ne sais quoi, mais l'armateur était chinois. Donc en fait, pour répondre en fait à cette question du goulot d'étranglement que ça représente, que ce détroit représente ou représenterait. Je me demande ce qu'il en est réellement à partir du moment où ceux qui sont susceptibles justement de le bloquer et notamment d'envoyer des missiles ou autres sur ces pétroliers sont aussi capables d'épargner les pétroliers en question.
On est sur un embargo qui est à peu près comparable à ce qui s'est passé en 73. Donc ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne ceux qu'on n'aime pas, donc les États-Unis et les Européens.
Voilà, donc ça veut dire que tout ce pétrole
la Chine,
chinois.
Un bateau aussi
passé en Inde. Serait épargné, potentiellement.
Oui.
Allez, on va parler de notre ami Emmanuel Macron.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Nicolas Meillant et Philippe Charlez, experts en politique énergétique, en présence de Jean-François Coulon-Desart et de Damien Chalamel, que vous connaissez tous. Donc on nous avait dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Et puis mercredi, Emmanuel Macron annonce qu'il va libérer 400 millions de barils de pétrole. On l'écoute et on se demandera ensuite s'il s'invite dans cette actualité, s'il fait semblant de jouer un rôle lui aussi, ou si cela aura un vrai impact.
Nous avons finalisé ces dernières heures, et ça a été annoncé à l'instant, la décision formelle de libérer 400 millions de barils de nos réserves stratégiques. Quand je dis nous, c'est la trentaine de pays qui sont dans l'Agence internationale de l'énergie. Ces 400 millions de barils, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente environ 20 jours de sortie de barils par le détroit d'Ormuz. Donc c'est significatif, c'est la plus grande libération de barils qui a été faite depuis qu'on pratique ces libérations de réserves stratégiques.
Oui, donc on se dit, quand on entend notre cher président, que l'heure est grave. Qu'est-ce que cela dit, ces 400 millions de barils libérés dans la nature, de la gravité de la crise pétrolière? Parce qu'on se pose la question quand même.
Déjà, c'est la première fois dans l'histoire de l'Agence internationale de l'énergie qui libère autant de barils de pétrole. Donc, c'est visiblement qu'il sépare quelque chose. Alors, quand est-ce qu'on libère des barils de pétrole? Quand il n'y en a plus, quand on est en pénurie. Est-ce qu'on est en pénurie? Non. Alors, pourquoi est-ce qu'ils en libèrent dans ce cas-là?
Ouais.
En fait, on est dans une course où, que ce soit Emmanuel Macron qui s'exprime en tant que président du G7, si je ne dis pas de bêtises, c'est pour ça qu'il a la parole, ça ne durera pas éternellement, heureusement. Et si on regarde Donald Trump, en fait, toute leur communication s'adresse au marché financier aux États-Unis, puisque c'est ça qui finance les retraites des Américains. Et donc, ils savent bien, à mon avis, Donald Trump avait sous-estimé le risque du détroit d'Ormuz, ce qu'il n'avait pas fait ses prédécesseurs, et c'est la raison pour laquelle le régime des Mollahs est en place depuis 47 ans, parce qu'ils savent que c'est leur carte maîtresse. Et donc là, on voit que les annonces sont juste faites pour faire baisser le prix du pétrole. Et donc, on l'a vu ces derniers jours, on est monté à $120 lundi, et puis après, Donald Trump a dit « c'est bon, la guerre est finie en 3 jours, c'est redescendu ». Et puis, il y a dû avoir une frappe, c'est à monter. L'AIE annonce la baisse de ses réserves, ça redescend. Et puis les Iraniens envoient un drone sur un navire, ça remonte. Bon, grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que l'annonce, l'impact sur les marchés des 400 millions de dollars a été effacé par un drone, qui allait taper sur un tanker, je crois que c'était mercredi ou jeudi soir. Donc c'était que de la com, et maintenant qu'on l'a annoncé, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la prochaine? Alors je veux juste un chiffre que peu de gens ont en tête, mais nous avons des réserves stratégiques dans tous les pays, notamment aux États-Unis, et ces réserves aux États-Unis étaient en 2000 près de 700 millions de barils de pétrole, mais avec ce qu'on a fait avec la Russie, comme on s'est privé du pétrole russe et du diesel, on allait puiser dans ces réserves stratégiques. Et donc, elles sont aujourd'hui à 400. Donc, on en a enlevé une grosse partie aux États-Unis. Donc là, à 400, les Américains ont annoncé qu'ils allaient en enlever, on va être très précis, 172. Donc, grosso modo, en 4 ans, on en a quand même enlevé 60%. Et on ne les a pas reconstitués depuis.
Donc, on a des réserves qui s'amenuisent dangereusement. Quoi.
Alors, quand il y a moins de réserves, c'est là où, effectivement, les prix du pétrole peuvent commencer un peu s'affoler.
Philippe Charlez.
Oui, donc, en fait, le détroit d'Ormuz est une guerre, je dirais, davantage psychologique que physique.
Est-ce qu'ils peuvent le bloquer longtemps, nos mollahs?
Alors, le bloquer physiquement, c'est difficile à dire, mais le bloquer psychologiquement, oui. Notamment aujourd'hui, on voit qu'en matière maritime, les primes d'assurance, ainsi que les salaires des, des équipages ont complètement explosé, puisqu'en fait, bah oui, vous demandez à un tanker de traverser un détroit où possiblement, c'est peut-être, il y en a peut-être pas beaucoup, mais possiblement vous pouvez sauter sur une mine. Donc plus personne veut vous assurer. Et quant à l'équipage, ben il faut vraiment bien le payer pour qu'il accepte de traverser. Donc vous vous rendez compte, ne fût-ce que par ces exemples d'assurance et de primes aux équipages, de la guerre psychologique face à laquelle nous sommes.
Mais est-ce que ça vaut pas le coup pour un armateur de dérouter ses bateaux, faire le tour de l'Afrique, plutôt que de les tanker pendant 3 semaines en attendant une hypothétique ouverture du détroit d'Ormuz?
Oui, mais enfin, de toute façon, si le détroit d'Ormuz est fermé, ceux qui sont à l'intérieur, ils peuvent plus sortir. Ceux qui sont à l'extérieur, ils peuvent aller où ils veulent, mais ils peuvent pas charger. Donc, vous ne résolvez pas du tout de situation. Il faut savoir, d'ailleurs, c'est un autre détail, mais qui a son importance, c'est que les Chinois sont quand même assez gênés par la fermeture du détroit d'Ormuz. Alors certes, ils peuvent beaucoup plus facilement négocier avec les Russes, on en parlera peut-être après, mais cela étant, il y a quand même à peu près 5 millions de barils jour qui allaient vers la Chine.
C'est un véritable cordon ombilical, hein, ce détroit d'Ormuz.
La Chine aujourd'hui, quand même, pour vous donner les chiffres, produit 4,5 millions de barils jour et en consomme 16,5. Donc elle est quand même dépendante à 80% de ses importations pétrolières. Si la Chine a bien une épine dans le pied, c'est celle du pétrole.
C'est celle-là.
Ouais. Damien Chalamet. Je reviens avec mon objection, mais qui a été encore une fois...
Objection.
Qui a été matérialisée cette semaine. À partir du moment où les Iraniens épargnent des cargaisons de pétrole brut qui sont destinées précisément, par exemple, à la Chine, je ne vois pas sur le court et le moyen terme.
Nicolas
Meillant.
On parle de bateaux iraniens. Dans les 5 millions de barils de pétrole pour la Chine, il y a les 2/3, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, est-ce qu'il laisse passer que les bateaux iraniens, avec du pétrole iranien, parce que l'Iran a besoin de se financer? Dans les 5 millions, il n'y en a que 1,5 qui vient de l'Iran, sur la Chine. Le poison est dans la dose, quelle quantité passe? Et puis, de toute façon, aujourd'hui, vous savez, c'est vraiment les traders qui font la pluie et le beau temps. Donc, ils auront de toute façon pas cette information. Ce qui est sûr, c'est que le marché va se tendre, que ce soit sur le pétrole, mais aussi sur le produit pétrolier. Hein. Je regardais tout à l'heure l'hélium, par exemple. Hélium, le Qatar fabrique 30% de l'hélium mondial. À quoi ça sert l'hélium? Ça sert à fabriquer les semi-conducteurs, les puces. Mais si vous n'avez plus de puces, vous savez, dans un monde un peu où il y a beaucoup d'électronique, ça complique un peu les choses.
Moi, j'ai pas saisi, en fait, vous dites, vous parlez de bateaux iraniens. Moi, je ne parle pas de bateaux iraniens, je vous parle de...
Pétrole iranien.
De pétrole iranien, d'accord, mais ça pourrait être du pétrole venant d'une de ces quelconques pétromonarchies qui écoulent leur production par le golfe Persique, et donc, en définitive, par le détroit d'Ormuz.
Quelle est votre question, Damien?
C'est-à-dire que le problème que posent les Iraniens, c'est que, semble-t-il, ils sont en mesure de s'attaquer à des tankers, hein, mais de même qu'ils sont en mesure d'épargner certains tankers.
J'allais vous poser la question.
C'est normal qu'ils fassent pour leurs partenaires.
Mais ce que je veux dire par là,
c'est
que... L'ordre
de grandeur, c'est 5 millions pour la Chine, au total. On parle 5 sur 20 millions, si vous voulez. Donc, quand bien même la Chine avait tous ses tankers, il en reste encore 3/4 qui sont bloqués.
Oui,
Donc, ça veut dire qu'en fait, vous êtes d'accord avec moi sur le fait que, dans l'absolu, la Chine pourrait être épargnée?
Non. Moi, je ne pense pas. Je ne crois pas à un blocage.
Est-ce qu'il y a une circulation pétrolière aussi fluide?
Je ne crois pas à un blocage sélectif du détroit d'Ormuz. Soit on va le réouvrir, soit il sera bloqué pour les raisons que je vous ai évoquées, psychologiques, que ce soit un tanker chinois ou un tanker indien ou un tanker américain, il n'osera pas traverser le détroit.
Oui, mais vous avez dit, Nicolas Meillant, que les bateaux iraniens passaient à travers du détroit d'Ormuz.
Le pétrole iranien, parce que les bateaux, ce n'est pas forcément des bateaux iraniens, mais le pétrole, l'Iran a besoin de continuer à vendre son pétrole, bien évidemment.
Alors pourquoi on ne les arraisonne pas quand ils sont sortis du droit d'Ormuz et puis on redonne ça à ceux qui en ont besoin?
Alors, la vie est simple avec Jean-François Colon-Desart.
On est en guerre.
On les amène dans la pompe à essence.
Je vais vous répondre à votre question, parce que souvent c'est pour la Chine. Donc je pense que la Chine n'est pas d'accord.
Alors il y a quand même aussi un facteur géographique qui joue, c'est que les Iraniens ont aussi un port... Ils ont un port d'export de pétrole, non pas sur la côte du Golfe. Non. Sur la côte sud iranienne, donc c'est-à-dire dans l'océan Indien. Et donc là il y a pas de problème. Mais enfin, la majorité de leur pétrole est effectivement concentrée dans cette île de Kark, je crois.
Ouais,
c'est Kark, c'est ça. Qui elle est dans le nord du Golfe Persique.
Et si jamais elle est attaquée, ce serait un mauvais signal.
Ah oui. Ah.
Pourquoi ?
Parce que ce serait
la guerre totale.
Voilà.
Allez,
ça l'est déjà.
Je voudrais qu'on parle d'un grand joueur d'échecs qui, pendant ce temps-là, ramasse la mise. Il s'appelle Vladimir Poutine.
Но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать.
Voilà, nous sommes prêts à travailler. Je traduis pour ceux qui parlent pas le russe couramment. Nous sommes prêts à travailler avec les Européens, mais nous avons besoin de signaux de leur part indiquant qu'ils sont prêts et disposés à collaborer avec nous et à garantir cette durabilité et cette stabilité. Voilà ce que nous dit Vladimir Poutine, hein, qui se frotte les mains, qui se fait tout doux. Est-ce que, alors évidemment, les Européens se sont empressés de refuser avec la main sur le cœur. Est-ce que Poutine va profiter de cette crise, Nicolas Meillant ?
Bah, il en profite déjà, hein. Qu'avec l'augmentation du prix du pétrole, avec l'augmentation du prix du gaz, il y a ces recettes qui vont augmenter. Et puis, de toute façon, moi, je pense que cette guerre, c'est aussi un affrontement, hein. On parle de l'Israël au départ, on parle d'Israël face à l'Iran, mais c'est quand même aussi beaucoup les États-Unis face à la Russie et à la Chine. Hein. C'est une nouvelle guerre de proxy, puisque l'Iran n'est pas tout seul. L'Iran a le soutien de la Russie et de la Chine. C'est pour ça que ça va être qu'ils n'ont aucun intérêt, un, qu'ils ne sont pas pressés, et que les conflits s'arrêtent, et deux, qu'ils n'ont aucun intérêt que l'Iran tombe. Puisque l'Iran, c'est leur partenaire, donc ils n'ont pas vraiment envie qu'il repasse dans les mains des Américains.
Alors je rappelle qu'on parle de la guerre du pétrole. Nous sommes en compagnie de Nicolas Meillant et de Philippe Charlès, tous les deux experts en politique énergétique, avec Jean-François Coulon et Damien Chalamel. Est-ce qu'on peut résumer finalement cette crise avec deux gagnants qui seraient Poutine et Trump, hein, parce que évidemment les États-Unis vendent du pétrole, ils en vendent beaucoup, et deux perdants qui seraient la Chine et l'Europe?
Alors, non.
Non. C'est pas si simple.
Sur l'Europe perdante, oui, on est d'accord. Sur la Russie gagnante, oui, on est d'accord. Non, Trump est, pour moi, c'est un suicide. Il s'est fait embarquer dans un conflit qu'il ne souhaitait pas. Et il va avoir beaucoup de mal à en sortir. Il disait l'autre jour, hier...
Mais il vend du pétrole, pourtant.
Oui, il vend du pétrole, mais il ne faut pas oublier que l'Américain qui a voté pour Donald Trump, il va faire le plein à la pompe, et ce n'est pas lui qui gagne l'argent en plus. Lui, il paye plus cher. Donc les prix du gaz et de l'essence n'ont jamais été aussi élevés sous Trump qu'en ce moment. Et il a quand même des élections dans 6 mois. Donc là, Trump, il s'est quand même fait élire, si vous voulez, par tous les électorats MAGA, qui étaient plutôt contre les néoconservateurs américains, pour la paix, pour arrêter de foutre le bordel dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait exactement l'inverse de ce qu'il a vendu. Donc si vous voulez, moi je pense que Trump, il est quand même parti pour être... Pour moi, c'est un suicide, donc je pense qu'il va disparaître.
Ah oui, vous êtes radical.
Non, mais il va disparaître de l'histoire.
Il sera battu aux élections au midterm.
Sauf s'il gagne la guerre.
Ouais. Mais alors que gagner la guerre, j'aimerais savoir ce que ça veut dire.
Changer le régime.
Oui, bien sûr. Et l'autre, et sur la Chine. Non, la Chine, je pense qu'aujourd'hui, ils savent que, si vous voulez, ça va beaucoup plus impacter ses concurrents que sont les États-Unis et l'Europe. Donc oui, ils vont en souffrir, mais moins que nous, et donc, in fine, ça veut dire qu'ils sont gagnants.
Damien Chalamel, question à Philippe Charlès.
Oui, non, mais pour prolonger le propos de notre invité, que je partage très largement sur son analyse de ce chaos, et personnellement, je ne me réjouis pas de ces morts, qu'ils soient iraniens, que ce soient nos frères chrétiens libanais, je ne me réjouis pas non plus de l'invasion du Liban par Israël. Je ferme la parenthèse, j'ajoute, parce que notre invité faisait référence aux élections de mi-mandat, donc je crois que c'est au mois d'octobre. Mais avant cela, il y a une loi aux États-Unis, c'est la loi sur les pouvoirs de guerre, War Powers Revolution. Au bout de 2 mois d'engagement d'engagement des forces armées à l'extérieur du territoire des États-Unis, le président doit obtenir l'autorisation du Congrès.
Ouais.
Donc c'est une loi de 73 et qui est toujours en vigueur, toujours appliquée. Donc ça veut dire on a au 28 avril en gros, c'est ça, c'est 28 février, le début des hostilités, je crois. Bon, donc au 28 avril, il faudra que l'exécutif américain a sollicité le Congrès et les deux chambres. Hein. Donc,
moi, je crois pas à un conflit long. Parce que ce serait un suicide, et même si Donald Trump a peut-être perdu la tête, il a à côté de lui des gens qui ont la tête sur les épaules. Je pense à J.D. Vance, qui était contre cette intervention, qui n'a pas été visiblement écouté et qui l'a préféré Benjamin Netanyahu. Donc je me dis que ces gens-là vont quand même réussir à le convaincre. Et il suffit encore de quelques jours un peu plus élevés, l'opinion publique qui se retourne aussi, hein, et qui se retourne très très rapidement. Donc le temps joue vraiment contre Donald Trump, et je ne vois pas dans quel monde il peut encore tenir 45 jours.
Vous connaissez, je finis juste la blague aux États-Unis, c'est Epic Fury, donc c'est là. Fury épique, c'est le nom. On l'appelle aussi Epstein Fury.
Hein. Ouais. Bon. Ça, c'est encore un autre dossier.
Je voulais dire, j'étais tout à fait d'accord avec Nicolas sur le fait que les Américains sont loin d'être gagnants dans l'affaire. D'autant plus que dans le litre d'essence américain, il y a très peu de taxes. Donc, en fait, l'impact du baril est encore bien plus important, parce que les taxes chez nous, même si on ne les aime pas, elles agissent quelque peu comme un amortisseur. Alors qu'aux États-Unis, c'est absolument pas le cas. Les taxes sont très faibles. Donc, je crois que pratiquement le litre d'essence, lui, il a doublé hein, depuis le début du conflit. On est à peu près à... On approche du 4 $ le gallon. Il était à 2 $ le gallon aux États-Unis. Et donc, cette augmentation... Parce que je suis bien passé pour le savoir, parce que je suis allé de nombreuses fois aux États-Unis, et le litre d'essence pour l'Américain, le prix bas du litre d'essence pour l'Américain, je dirais, pour une comparaison un peu osée, que c'est aussi important que le droit de grève pour la CGT en France. Donc, ce qui veut dire, c'est vraiment chromosomique. Et donc... La réaction de l'électeur américain aux élections mi-mandat face à, admettons, un gallon à 6 $, ce qui est tout à fait possible.
Un gallon, ça fait combien en litres?
Ça fait 3 litres.
Donc ça reste très bon marché par rapport à la France. Hein.
Ah oui, mais enfin, l'Américain ne pourrait pas vivre avec le prix de l'essence en France. Donc, tu as tout à fait raison. L'action de Trump, ça a été... En fait, on imagine bien qu'il a été motivé par Netanyahou parce qu'il y avait cette fenêtre d'opportunité vis-à-vis des dignitaires iraniens. Et puis, il a accepté cette fenêtre d'opportunité et il doit se dire maintenant, j'ai vraiment fait une grosse connerie. Ça fait pas nombre d'heures.
Moi, je suis pas aussi sûr que vous, parce que ils ont la maîtrise des airs.
La parole aux auditeurs.
Oui, mais ils ont la maîtrise des airs. Les Iraniens n'ont plus de marine. Il reste 250 000 Basiji, gardiens de la Révolution. Leurs lanceurs ont déjà été quand même pas mal frappés. Je ne serais pas si pessimiste que vous. Il peut s'en sortir.
Mais parce que le...
Non, il peut s'en sortir. N'oubliez Et vous avez 88 pas... millions d'Iraniens qui sont pour la disparition du régime.
Oui, mais n'oubliez pas, Jean-François Coulon des Arts, que c'est un régime totalitaire et qu'un régime totalitaire, il va jusqu'au boutisme.
Il faudra aller au sol, je suis d'accord.
Alors, Nicolas Meillard, non, vous vouliez dire un mot?
Non, je disais que changement de régime sans personne au sol, ça n'existe pas.
Ouais.
Moi, je voudrais une citation du président Trump.
Oui, courte.
Elle est très courte. Mai 2025, la paix, la sécurité, la prospérité ne peuvent pas être imposées de l'extérieur.
Voilà. D'accord.
Président Donald J. Trump, il y a moins d'un an.
Ouais, intéressant dans ce contexte. Alors, je voulais vous donner quelques commentaires des auditeurs. Hein. Il n'y a pas que le pétrole et le gaz. L'hélium produit au Qatar est aussi indispensable aux producteurs de chips électroniques d'Asie. La fabrication des semi-conducteurs est le plus gros consommateur d'hélium.
Ça a été mentionné.
On en parlait tout à l'heure avec Nicolas Meillant et Philippe Charlez. Et
les engrais dont on n'a pas parlé, hein. Un tiers des engrais mondiaux qui passent par le Qatar, ça c'est terrible, parce que qu'est-ce qui se passe quand les engrais, le prix augmente, comme en 2008 avec le choc qu'on a connu à cette époque pétrolier.
Ouais. Nicolas Meillant.
En 2011, vous avez les printemps arabes, hein. Donc c'est quand même directement lié, donc attendez-vous là, avec si on a cette augmentation du prix des engrais, à avoir des mauvaises surprises dans quelques années.
Et même en France avec les agriculteurs.
Bien sûr.
Et cet auditeur se demande si il y aurait une pénurie, pourrait y avoir une pénurie d'hélium.
Les semi-conducteurs, c'est 25-30% de la consommation d'hélium, et là, vous avez et le Qatar qui en fabrique 30%. Donc, il y a probablement des stocks, mais on est quand même dans une économie mondiale qu'on appelle juste à temps, hein, donc, parce que ça coûte moins cher. Donc oui, il y aura de toute façon des répercussions, quoi qu'il arrive. Et plus le temps dure, pire ce sera.
Alors, un autre auditeur nous dit « Le problème majeur n'est-il pas le retrait des pétromonarchies des investissements dans l'IA, donc l'intelligence économique, artificielle, aux États-Unis, l'éclatement de la bulle d'intelligence artificielle et le choc systémique avec la dédollarisation du marché du pétrole ?» Bon.
Alors, pour répondre à ça, je pense que c'est... On est quand même dans un moment assez historique qui, pour moi... fait suite, si vous voulez, au premier contrat entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis en 1945, le pacte de Quincy, hein, pétrole contre sécurité. On parle beaucoup des buts de guerre des États-Unis et d'Israël. Mmh. Mais quel est le but de guerre de l'Iran ? Moi, à mon avis, le but de guerre de l'Iran, c'est quand même de se débarrasser des Américains. De se débarrasser de toutes les bases américaines. Et donc, eux, à mon avis, ils n'arrêteront pas. Leur but, c'est de faire... Ouais. tourner toutes les monarchies sunnites de leur côté pour que ces bases américaines disparaissent et qu'ils puissent construire un Moyen-Orient, entre guillemets, qui vivent en paix, etc. Et donc, bah, par rapport à la question de l'auditeur qui parlait, il me semble, de ces choses-là, je pense que on a un vrai tenant géopolitique. Et derrière, qui est-ce qu'on embuscade sur ces pays-là ? Bah, c'est la Chine, bien évidemment. La Chine qui a déjà la main mise sur l'Iran, qui est déjà très présente aussi sur des concessions pétrolières. Mais
L'Irak.
En Irak, d'ailleurs, c'est ça une des raisons de l'intervention en 2002, il me semble. Et donc, d'ailleurs, on pourra voir vraiment, hein, si jamais le Moyen-Orient passe des États-Unis vers la Chine, vous imaginez le bouleversement. Et je pense que là, on peut se rapprocher de quelque chose qu'on peut appeler la fin de l'Occident.
Oui, mais c'est pas encore gagné, hein, que les sunnites passent du côté des chiites iraniens. Ils s'aiment pas beaucoup, quand même, hein.
Ils ont été capables de faire la paix. Qui les a rapprochés? Les cités sunnites, c'est les Chinois.
Oui, mais une paix quand même pointillée, on va dire. On se surveille. Hein.
De toute façon, si la rue saoudienne, par exemple, on sait de quel côté elle est. Si les autorités saoudiennes, abou-dhabiennes, Qatari ou même Koweïtienne ne réagissent pas et finalement laissent faire pour l'instant, c'est parce qu'ils savent que la rue n'est pas du tout du côté des Américains. Eux le sont, mais la rue n'est pas nécessairement du côté des Américains.
C'est quand même ces monarchies qui ont annoncé qui gelaient ou qui coupaient les investissements aux États-Unis. Donc c'est quand même un premier pas dans cette direction, parce qu'ils avaient quand même accepté des bases à condition d'être défendus. Il y a les bases, mais la défense... Alors effectivement, bien évidemment qu'il y a des interceptions. Mais c'est une myriade de cibles, c'est une guerre complètement asymétrique. Les Iraniens peuvent taper partout où ils veulent. Et ils répliquent à chaque fois.
Vous dites quels sont le but de guerre des Iraniens. Moi, je pense que le but de guerre des Iraniens, principalement, c'est de respecter la charte des Nations Unies. Parce que la charte des Nations Unies, elle prévoit que ce sont les guerres défensives qui sont légales. Donc en l'occurrence, les Iraniens se défendent face à une offensive israélienne américaine.
Et ils répliquent.
Mais voilà, donc le but de guerre, c'est d'appliquer, c'est de se défendre.
Oui, on tape une usine de défense.
Sauf que c'est un régime assez dangereux.
Ah mais bien sûr.
Imaginez les Iraniens et les Mollahs avec une bombe atomique.
Alors,
si vous avez la Corée du Nord.
Mais la Corée du Nord, elle est tenue par la Chine.
C'est pas un facteur de sécurité.
Vous avez un régime qui est tout à fait hostile à la France, ça s'appelle l'Algérie. Vous n'allez pas faire une guerre préventive.
Ils n'ont pas la bombe atomique.
Non, j'entends bien, mais enfin, ils ont, je ne sais pas, on nous parle par exemple des droits de l'homme, ils ont des milliers de prisonniers demandés à Boulay, de prisonniers politiques demandés à Boulay Sansal.
C'est pas des modèles.
Ce qu'il en pense, ils nous exportent une criminalité en France. Personne de sérieux en France ne prétend faire une guerre préventive contre le FLN algérien.
Les accords du JCPOA qui ont été dénoncés par les États-Unis en 2018 permettaient d'éviter que les Irans aient la bombe atomique.
Oui, mais est-ce que c'était... On était un peu comme l'Irak. On cherchait les bombes sales irakiennes sous Saddam Hussein. Hein, et les Américains ont menti. Les Iraniens mentent. Vous savez très bien que les Iraniens sont de redoutables négociateurs.
Vous aviez des inspecteurs qui étaient sur place pour
inspecter. Ils pouvaient pas aller partout. C'était à chaque fois une comédie, etc. Non.
On avance. Un de nos auditeurs nous dit « Vous venez de dire que la Chine est embêtée par la fermeture du détroit d'Ormuz. » Et il nous précise, à l'intention de nos auditeurs, que l'Iran laisse passer précisément tous les bateaux chargés de pétrole à destination de la Chine. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui, tous,
je pense qu'on n'a pas l'idée, Mélian, on n'a pas Charles. L'idée des quantités et du nombre. Parce que vous savez, c'est quand même des bateaux, les droits d'Hormuz, les bateaux sont quand même à la queue leu-leu. C'est des quantités quand même énormes qui sortent. Donc là, effectivement, il y a des bateaux qui passent, il y a des histoires de bateaux qui changent leur nom, qui vont peut-être dans d'autres destinations, qui disent bah, « en fait, je vais vers la Chine ». Pour pouvoir essayer de passer, donc c'est des choses qui existent. Combien, on n'en sait rien.
Mais transpondeurs, satellites, on les suit.
Exactement.
Quand même,
donc oui, bien sûr, on les suit.
Allez, un autre auditeur nous dit « La déconnexion des politiques occidentaux des réalités est bien montrée par le fait que les présidents peuvent lancer des opérations militaires sans contrôle des chambres pour des périodes de plusieurs mois, alors que les conflits actuels sont quasiment réglés en une semaine ou moins. Bah, » la preuve que là, ça dure quand même plus qu'une semaine.
Je voulais juste rajouter un élément de contexte sur les bateaux, hein, parce que, en fait, il y a eu un précédent qui s'appelle la guerre des pétroliers, hein, dans la guerre Iran-Irak. À cette époque, il y a quand même eu 450 attaques. De bateaux. Donc là, on en est à 2, 3. Un peu de marge encore.
Ouais. Ouais. L'intensité peut monter. Encore. Voilà. Et le même auditeur nous dit que M. Coulon-Desart est un peu idéaliste, qu'il rêve, hein, parce que la surprise va être forte. En sorte d'anesthésie. Voilà. Il revendique son côté rêveur. Hein.
J'adore ça.
Voilà. Il a raison.
C'est la dernière. Allez. C'est ma foi en l'homme.
Oui. Voilà. Voilà. Alors, on a beaucoup de messages. Hein. J'en donne encore un ou deux. Contrairement à ce qu'on croit, le raffinage du gasoil est complexe et coûteux. Par ailleurs, les Américains auraient pu commencer à prévenir les cargos pétroliers qui se trouvaient derrière le détroit d'Ormuz pour qu'ils s'en aillent avec leur cargaison avant d'attaquer l'Iran. La possibilité de blocage du détroit d'Ormuz est pourtant connue depuis plus de 50 ans. Courtoisement, nous dit cet auditeur. Bon, vous pensez que on aurait pu faire quelque chose, Philippe Charles, Nicolas Mélian,
pour éviter de bloquer à Beyrouth, attention, quitter ce quartier, etc.
Ouais, voilà. Non, mais quand on écoute Donald Trump, il vous dit quand même un jour sur deux, mais allez-y, passez par le détroit, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Il change d'avis. Il avait prévu, il voulait prévoir un fonds de 20 milliards d'euros pour compenser les assurances qu'il ne voulait plus assurer les tankers. Je pense qu'on est dans une improvisation totale sur le détroit d'Ormuz. Vous savez, c'est les Américains, ils sont tout puissants, c'est les rois du monde, c'est pas un petit détroit qui va les ennuyer. Bah si, en fait si. En fait,
c'est le petit détroit. Pour prolonger le propos de notre invité, sur la perplexité qu'on peut avoir face à Donald Trump et de ses différents discours, il y en a un qui est quand même, semble-t-il, bien informé, c'est Marco Rubio, qui a vendu la mèche, en disant qu'effectivement, ce conflit et cette guerre, cette opération, a été engagée parce que les États-Unis savaient que, de toute façon, Israël allait y aller. Et que donc...
Ils voulaient éviter qu'Israël y aille, si j'ai bien compris.
Oui, enfin bon, en tous les cas, le lien est clairement fait sur...
Dans la négociation entre les deux.
Dans la causalité, sur le fait que le pouvoir israélien en place... Ouais. A été déterminant dans l'engagement des hostilités.
De toute façon, on va voir si la guerre s'éternise, entre guillemets, puisque là, en ce moment, aux États-Unis, il y a deux nouveaux porte-avions qui se préparent pour qu'il y ait un échange. Parce que les porte-avions qui sont en ce moment dans le Golfe et en Méditerranée, ils ne peuvent pas, à un moment, les avions, il faut les réparer, il faut les changer, etc., etc. Donc il y aura du sang frais qui va arriver. On verra bien.
Allez, absolument. Encore deux petites réactions. Et puis, je voudrais qu'on parle du nucléaire très rapidement avant de passer à un autre sujet. Donc, les certificats, nous dit cet auditeur, les certificats d'économie d'énergie dont nous parlions tout à l'heure, finissent aussi dans l'augmentation des prix des entreprises de rénovation et d'isolation. Comme toujours, toutes les subventions bureaucratiques.
Il y a eu environ 500 millions d'euros de fraude.
C'est frappé du bon sens.
500 millions d'euros de fraude l'an dernier qui ont été repérés, notamment sur tout ce qui est travaux d'isolation thermique dans le bâtiment. Donc oui, d'ailleurs, je ne sais pas, mais je pense qu'autour de la table, vous avez quand même déjà été appelé au téléphone pour profiter des certificats d'économie d'énergie. Vous n'êtes pas très important.
Planter un fonctionnaire, vous ferez pousser un impôt.
Voilà. Et enfin, dernière réaction. Le président indien a déclaré que personne ne pouvait imposer à l'Inde une politique énergétique. Trump est donc renvoyé à ses affaires. Mais l'Inde dépend du Golfe à 50%, nous dit cet auditeur. Comme l'Union européenne, dans son immense intelligence, achète du carburant à l'Inde, faut-il s'étonner qu'il y ait des problèmes ?
Si vous avez...
Enfin, moi, le carburant acheté par l'Inde, il doit pas passer par le détroit d'Ormuz, c'est déjà ça.
Ouais. Bon.
Non, mais les Indiens vont faire une exception et reprendre des relations du pétrole et aux Russes. Bon, ben.
On va parler de notre amie Ursula von der Leyen.